RDS. Ligue des champions. Euro. Mondial. On en parle tout le temps. Ben, des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. CAN Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le CAN Football Club. La poutine du soccer.
Ce podcast est présenté par Mise au jeu.
Mise au jeu. Gâches-tu?
Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur.
Peu importe c'est où, peu importe où ça joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial, on en parle tout le temps.
Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact.
Club. Les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le CAN Football Club. La poutine du soccer.
Pour le podcast, on dirait que nous écoutons en ce moment. Bonjour, bonsoir, bon après-midi et bienvenue à une nouvelle édition du podcast CAN FC édition Couscous Piri Piri avec le duo multiethnique, soccéristique, footballistique. Le meilleur de la planète, Nilton. Salut Nilton.
Salut Sofiane, ça va?
Salut, ça va très bien. Et moi, c'est Sofiane. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous nous écoutez sur les podcasts. Bienvenue au réseau, le seul réseau soccer podcast au Québec et un des tops au Canada, CAN Football Club Plus. Et ceux qui nous écoutent en direct, bienvenue. Vous êtes en ce moment sur Twitter, @CANFootClub. Vous nous suivez sur Periscope en direct en ce moment. On est le 16 juillet. Le 16 juillet, J+1 après la fin de la Coupe du Monde, la France est championne du monde, et J+2 après la victoire de l'Impact de Montréal face à San Jose sur un score de 2-0. Bienvenue, Nilton, comment ça va?
Bon, ça va, c'est la première journée sans Coupe du Monde, hein. c'est moins le fun, les journées, pas de match à 10h, pas de match à 2h. Wow!
Pour les anthropologues et les archéologues dans le futur, ils vont avoir un pic d'efficacité qui va monter dès maintenant au travail. Donc, ils vont être à moins 40%, à moins 110%, puis soudainement.
Ça dépend. Il y a certaines nations que ça commence. En Allemagne, là, le pic a déjà atteint.
Exactement. Au Canada,
il a atteint plus tôt.
Au Canada, entre les rues Follum, Mont-Royal, Jeanne-Mance et Parc, l'efficacité est encore basse. Ça va durer encore une semaine.
Mais je pense qu'encore. On a atteint un nouveau sommet au Québec, à Montréal. Tu sais, à chaque année, on voit un engouement là, qui augmente. Là. Tu sais, peu
Tout
importe
fait.
Si qui. Tu sais, beaucoup de personnes me demandaient si l'absence de l'Italie allait nuire un peu à visibilité.
Non.
Tu sais,
non.
Oui, là, pour le public montréalais, c'est un peu plate, mais tu sais, les Français sont devenus les nouveaux Italiens montréalais. Il y en a partout. Mais tu sais, on s'attache rapidement à d'autres nations, puis finalement, tu sais, il n'y a pas de Croates tant que ça à Montréal, puis il y avait beaucoup pro-Croates. On s'attache aux équipes, peu importe la nation. Tu sais, puis si jamais un jour ça arrive que on a la sélection canadienne, ça va être vraiment intéressant à suivre.
Bon, j'espère que ça va bien se passer pour Canada en 2026, mais on attend encore que le Canada est bel et bien, qu'il va bel et bien participer en tant que qualifié automatique en 2026. On attend que ce soit officiel, normalement ce l'est, mais on ne sait jamais. Donc voilà, bienvenue, merci encore toujours à ceux qui nous supportent sur patreon.com, donc patreon.com/CANFootballClub. Donc vous pouvez nous supporter financièrement pour nous aider à se développer, que ce soit juste à payer du monde pour aider à faire du contenu, à acheter du matériel, audio, vidéo, à acheter du gear, à acheter des habiller nos gens avec du gear CAN FC comme ce joli polo. Vous pouvez trouver sur tropoutine.com. Juste faites un search dans le site web pour CAN Football Club ou allez-y dans la collection Soccer Local. Évidemment, un grand merci à nos sponsors, La Forge du Malte, la microbrasserie basée à Trois-Rivières qui vend ses bières un peu partout au Québec et aussi à Montréal. J'ai une caisse de bière de Guy. Je ne l'ai pas encore distribuée aux gars et je ne l'ai pas encore goûtée. Je vais d'abord la réfrigérer.
Mais tiens, loin de Alex. Tiens ça très loin.
Non, mais Alex, c'est le client numéro 1. Tu sais, moi, il faut qu'il la teste. Et puis, il va dire qu'elle est très bonne parce qu'elle est très populaire. Donc, voilà. Merci encore à Guy, un ami de l'émission et tout le monde à La Forge du Malte. Donc, on est dans le vif du sujet. Nilton, l'Impact a gagné. Ouf. Et pas n'importe comment. Après une grosse défaite mercredi contre New York City FC 3-0, un petit réveil, une petite claque pour
un
dire.
C'est un reality check, là.
Ouais, vous êtes, on n'est pas dans le top 3. Donc, l'Impact n'est pas dans le top 3. Donc, c'est bon de savoir.
Et, surprise.
Surprise, pas tout de suite. Peut-être pas cette année. Et ensuite, pour gagner à la maison samedi, 2-0 contre San Jose. Un effectif relativement. Il n'y a pas eu tant de rotation que ça. Ils ont rotation, mais les gros. Le gros call des joueurs était là durant les deux matchs, Tider, Piatti, Bush, etc. C'était un match intéressant, mais je vais rappeler un peu le match rapidement. Ben, les deux buts, le but gagnant de Saphir Tider à la 8e minute sur une belle combinaison qui commence de Matteo Moncuso sur le côté gauche pour trouver Piatti qui trouve Saphir Tider sur un bon contrôle, pied gauche, plat du pied dans la surface. Et ensuite, Piatti, c'est une passe de Silva. Qui est en fire, Silva, qui marque à la 74e minute. Et donc, pour vous rappeler rapidement les éléments partants du côté de San Jose, bon, on va pas faire semblant que le côté est tous, mais on va les mettre quand même. Le gardien Tarbell, un 4-4-2, Salinas, Cummins, Jungworth, Lima, Hika, Godoy, Whale, Hosen, et devant Kachavili, Wondolowski. Du côté de l'Impact, la formation qui ira jamais, le 4-3-3, Bush dans les buts, Duval, Camacho, Raitala, Lovitz, Camacho qui remplace Fanny, qui n'était pas sur la feuille de match, blessé ou juste mis hors de la feuille
grosse
de match.
Grosse grippe.
Elle a une grippe, ok. J'avais pas vu ça, les nouvelles, quand j'ai regardé le match. Kroliki, Piet, Tider, et Silva, Mancuso, Piatti. Clairement, Mancuso, c'est le titulaire jusqu'à meilleure nouvelle, parce que Yerchen Amel n'est pas dans le coup. Comme on l'avait vu contre New York City FC. Voici l'alignement partant, les alignements, voici le score et les buteurs. Pour vous donner une idée, disons, Petrasso est rentré à la 73e pour remplacer Duval. Duval, c'est 107 blessés, au genou peut-être, ou à la cuisse.
Ouais, c'était de l'autre côté. Moi, j'étais situé à l'autre côté du terrain. Ouais. Je ne sais pas si...
Il s'est bloqué les genoux, je pense. J'ai l'impression qu'à un moment, il a arrêté de courir, il a fait une passe du pied gauche, puis il a dit stop. Donc voilà, et puis le retour du Jason Vargas, le revenant, à la 70e minute, qui remplace Matteo Mancuso. Au niveau de stats intéressants, l'Impact a quand même eu plus de position de balle avec 52%, à peine, contre 48% du côté de San Jose. Bon, l'évaluation, celle qui compte, surtout celle qui a été utilisée pour faire l'évaluation de la Coupe du Monde avec Louis-Philippe Guy à 99.
C'était pas mal, hein, c'était pas mal. Ça.
C'est pas pire. Donc, Louis-Philippe Guy de 99. Donc, merci encore de nous inviter. Un grand merci à Jean-Jacques Lajoie qui nous supporte sur Twitter comme d'habitude et au 99 et à tous les éditeurs qui nous.
Ce matin, oui. Toute la gang.
On
commence à s'habituer, là. C'est dangereux.
Attention, les chaises. Moi, je vais donner ma taille. Je vais donner mon propre micro. Bon, temporaire. Je sais pas, les dimanches, je suis disponible. Bon, on peut faire ce qu'on fait dans un dimanche, dans un studio, peut-être. Avec des appels, avec des hashtags.
On ouvre les lignes.
Allô.
Arrête, là, ça commence à me tenter. Là.
Arrête. On va commencer avec les évaluations. Sapoteur, le meilleur joueur du match. Tropotine, le pire joueur du match. Et Gérard Danfoin, le moment loufoque, marrant, WTF et autre moment que vous avez trouvé intéressant. Nilton, du côté de Saputo d'Or, est-ce qu'on peut mettre Piatti par défaut? Pourquoi?
Ouais, mais là, ce qui est bien, là, c'est que depuis quelques matchs, là, on va oublier l'opposition. On ne fera pas nos rabat-joies tout de suite. C'est rendu un peu plus compliqué de trouver un Saputo d'Or parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a quelques-uns. Ça fait du bien parce que avant, c'était compliqué d'en trouver un. Il était par défaut trop souvent Bush. Et il y en avait tellement de trous de Poutine qu'on ne savait plus. Là, c'est l'inverse. Là. Le trou de Poutine est clairement identifié match après match. Et le Saputo d'Or, ça dépend. Tu sais, Piatti, pas de Piatti, il n'y a pas de victoire, c'est un no-brainer. C'est l'évidence même. Tu sais. Mais tu sais, on peut aller chercher plein d'autres éléments. Là. Avant le but, ou même pendant le 1-0, Bush a sauvé minimum deux occasions claires de but. Si San Jose avait marqué un but en première demi sur les deux, trois occasions qu'il y a eu, on aurait été probablement dans le trouble parce qu'on sentait que l'équipe était un peu stressée de manquer toutes ces occasions en avant sans blame on Matteo. Il y a Tider, oui, il y a un but, mais il travaille beaucoup. Il combine vraiment Je suis pas à l'entraînement. Je sais pas si c'est des jeux, si c'est des patterns qui sont appliqués pendant les entraînements, mais on voit des combinaisons, des jeux en triangle avec Lovitz et Piatti. Dans la construction, on s'entend qu'une fois rendu dans le dernier tiers, Piatti, il regarde juste le but et c'est correct parce que c'est notre marqueur de toute façon.
Tout à fait.
Mais Tider est beaucoup plus serein dans ses prises de décision, dans ses courses. Il se retrouve dans la boîte, ce qu'il faisait pas non plus. Puis de l'autre côté, il y a Silva. Silva, il fait un travail là, offensif, mais non, défensif. C'est un joueur, on peut comprendre pourquoi il a été recruté. Oui. S'il a été vendu de cette façon-là à Rémi Garde, c'est sûr que ça l'intéresse. C'est un joueur complet. C'est pas, comme on a dit à la dernière émission, c'est pas l'équivalent de Piatti à droite, mais c'est pas grave parce que Piatti fait pas ce travail-là. Les deux buts partent de ses pieds, là.
C'est l'équivalent de personne en ce moment. C'est pas l'équivalent de Tider à droite ou à gauche. C'est vraiment un ailier, un joueur de côté, qui n'est pas un ailier pur dans son style, quoi qu'on entend, il y a des tendances, mais c'est un joueur de côté droit, il percute, comme tu dis, il fait des courses.
Il est beaucoup plus milieu qu'ailier.
C'est ça, dans un 4-3-3, il est quasiment dans un... Allez, tu fais un 4-3-1-2, tu mets Silva dans ce 1 bizarre, mais j'exagère, mais il est plus droit, milieu droit, je suis d'accord, axe droit, mais il est capable de déborder, mais il a surtout une capacité à couper vers le centre, vers l'axe, quelque chose qu'on avait vu au début. Et après, il s'est perdu pendant un certain bout. Puis ensuite, il a eu une bonne phase quand même, comme troisième milieu de terrain, la place de Kroliki pour un petit bout. Donc, ça avait marché plus ou moins en termes de... Dans le jeu, c'était pas dégueulasse. Mais bon, après, l'Impact a commencé à perdre, donc on a oublié tout ça. Ouais, c'est vrai. Mais l'embarras du choix, Tider peut l'avoir pour son but, Piatti, Silva. Du côté de le trop Poutine, par défaut, c'est Mancuso, mais s'il arrête, c'est pas de sa faute, là. Je trouve qu'il a fait un mauvais match.
Il y a quand même des limites à pas lui donner sa faute. Il y a eu des occasions. Raté, c'est de la catastrophe dans ses choix.
Pour éviter mon image d'acharnement. D'avoir l'air le méchant, mais je suis très objectif. Il est vraiment, c'est triste. Il manque de confiance, là.
C'est un retraité qui joue. Il est plus fini que Marco Donadel sur le terrain. Tu sais, oui, on va entendre les fameuses histoires où il travaille dans le collectif, il fait du travail. Tu sais, il est là à la construction, il fait le pressing. Mais ça, n'importe qui peut faire ça. Un gars à 50 000 de l'académie qui court vite va le faire. Il est payé 700 000 pour réussir une tête, pas l'envoyer au corner, mais l'envoyer sur le but. Là. Il est complètement vidé de toute opportunité, toutes les opportunités qui arrivent à ses pieds, c'est la cata, là, c'est fini.
C'est vrai, mais bon, il mérite pleinement. On va lire après les évaluations de nos fans. Je pense que c'est unanime, j'allais dire uniforme, mais c'est plus le mot unanime. Merci, Nilton. Parce que on sait d'une équipe qui gagne, quoi, c'est 5 victoires en 6 matchs, ou au moins 5 victoires, là, qui est quasiment consécutive. Moins la défaite contre New York City FC. On voit la roue de trop qui est là, le poids un peu, on se dit, il travaille, on l'aime bien, les coéquipiers travaillent pour lui. Il fait quand même une belle construction côté gauche pour le premier but. Il est quasiment meilleur comme deuxième attaquant, là, s'il avait un attaquant pointe avec lui. Mais voilà, il n'y a personne d'autre. Hein. Il n'y a juste personne d'autre en ce moment. Jackson Hamel n'a pas pu prendre sa place. Parce qu'il est pas assez bon, parce que le coach l'aime pas, parce que le coach trouve qu'il travaille mal, parce qu'il est blessé souvent. On combine tout ça ensemble, puis ça résume un peu la moitié de saison de Jackson Hamel cette année. On savait que ses buts l'an dernier de Jackson Hamel, c'était un peu un feu de paille, mais bon. Un feu de paille dans le sens, on savait qu'il avait pas répété ça de façon aussi efficace à marquer 8 buts en 5 tirs, là, ça se fait pas. On était content pour lui parce que athlétiquement, physiquement, il a été très intéressant. En tout cas, on passe du côté de Gilard Dinfoin. On est tous d'accord, c'est le double changement de San Jose qui sort Godoy, qui est énervé pour rentrer. J'oublie le nom de l'autre joueur. Il rentre. Fatay Alash, et Fatay Alash ensuite sort à la mi-temps pour Jimmy Rockwood. Donc oui, c'était bizarre.
Il y a même le
bizarre.
Petit sermon aussi à la fin du match. Là, il y a comme il a fait un get-together en plein milieu du terrain là, pour pouvoir parler à sa gang. Wondolowski a défendu son coach. Il a été embauché, c'est cette saison ou l'année passée? C'est un Suédois, hein, c'est ça?
C'est pas le coach de la Nouvelle-Zélande? Ou je confonds avec une autre équipe maintenant?
Non, la Nouvelle-Zélande, non, c'est Colorado, ça.
Ah oui, Colorado, excuse-moi.
Il vient de Aken, exact.
Oui, suédois, Michael Starr, ou Starr, oui.
Oui, exact.
Oui, je confonds.
Il a l'air un peu dépassé par peut-être lui aussi le niveau de professionnalisme de son club. Là. Faire un changement comme ça 10 minutes plus tard, c'est qu'il va envoyer un message à tout le monde. C'est dangereux, là, tu sais. Godoy, c'est quand même un international. Il était à la Coupe du Monde, non, avec le Panama, il n'y a pas très longtemps.
Ouais. Il était titulaire, mais c'est bizarre. Non, c'est bizarre. C'était un peu vraiment Gérard d'un foin. Et puis, à Montréal, on s'en fout. On a d'autres choses à côté.
Il y a Saint-Nosé probablement aussi. Il s'en fout. Il n'y a pas un journaliste là-bas qui va poser des questions. Donc, il peut faire ce qu'il veut avec son club. Ouais. Là,
ça va être une question.
Non, mais sérieusement, Rémi Garde fait ça. Il y a une tonne de questions. Puis, le hashtag IMFC est en feu. Là, il peut se permettre.
Tout à fait. Ça va durer une semaine. On l'a invité à tous les plateaux de 99. On passe là-bas de 9 à 5. On ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? À toutes les sauces.
Oui, mais c'est compliqué. Il y a le stationnement autour de la station. Ce n'est pas évident.
C'est très difficile. Très difficile. Le plateau.
Écoute, hein? Ouais. C'est des problèmes de riches.
Tout à fait. First world problems. Bon, du côté des fans, Mathieu Prou at Hard Rock Prou, son sapoteau d'or, Piatti ou les deux pour un d'avant-match, Tropotin Manco sous, Gilles Dafoin, l'arbitre qui aurait dû se donner une jaune pour le plaquer sur Piet.
Ah, oh, c'était beau ça!
Ouais, c'était bien, c'était bien. Bien joué.
Imagine, je blesse.
Charles Marchand, c'est at Marchand Charles. Son sapeau d'or Silva, solide autant en attaque qu'en défense. Mention spéciale à Taylor et Piatti. Tropoutine, Mancuzu, majuscule avec 4 points d'exclamation. Non, 5. 5, c'est important. Et Gérard Danfoin, le joueur des Quakes qui sort en premier temps.
Il reste 4 mois à endurer, Mathéo, au maximum.
C'est difficile. Hein. Ou pas. Gérard Danfoin, le joueur des Quakes qui sort en premier mi-temps sans redescendant, juste pour faire différent du solide plaqué de l'arbitre. Genevieve Borgia at Borgia G6, Saputo d'or, Piatti, le grand Piatti, Tropotine, Mancus ou encore Gérard Danfoin, l'arbitre qui plaque Piatti solidement, c'est une tendance. Une amie de l'émission, Stefrad, at Stefrad 11, Piatti, c'est magnifique de le voir jouer, Tropotine, Godoy, Gérard Danfoin, j'hésite entre la corde à linge de l'arbitre envers Piatti ou l'ensemble de l'œuvre de Star. Donc, merci encore à Maximus, Taylor Solide, Saputo d'or, Tropoutine, Mancuzu. Je vais le porter à l'aéroport gratos. Je propose que la moitié au prochain match soit payée, soit pour payer son billet. Donc,
petite histoire personnelle, j'ai été très, très stressé au moitié-moitié. J'avais les 3 derniers numéros. J'avais complètement oublié de voir les autres numéros. J'étais prêt à être debout. Puis, heureusement, mon partenaire de billet de saison a dit assis-toi. T'as les 3 derniers, mais pas le reste.
Ah. Et t'auras pipé le billet d'avion, la moitié, pour envoyer Mancuzu en Italie.
Ouais, facile.
J'ai l'air d'un foin, collision, Raf Piatti. Merci, MK Simus. Merci à tout le monde de Real Mart, Patrick Enfedak, Michael Forcier, Dr. Foot, Mathieu Machibouzouk, Steph NK Galagon et tout le monde qui a participé sur les évaluations sur les internets. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous remplir le formulaire qu'on va diffuser sur le Cannes Foot Club et aussi sur le compte de Sid at Solamby. Sinon, on va le retweeter, moi, Nilton et tous les autres du Cannes FC. Pour remplir le formulaire, mettez vos notes, vos évaluations et comme ça, on fait la compilation avec un joli graphique pour bien analyser ce qui se passe à travers la saison. Bon, Nilton, juste un petit rappel avant les questions. Le classement, c'est important. Maintenant, le classement devient quelque chose qu'on regarde depuis un mois.
Exact.
L'Impact est sixième, synonyme de qualification au Syria MLS. En ce moment, ils vont rencontrer New England si la saison s'arrête maintenant. Sixième avec 27 points, 9 victoires, 12 défaites et 0 match nul. Je pense que c'est la seule équipe en MLS qui n'a pas de match nul, c'est ça. Minnesota est derrière avec seulement un match nul à travers la ligue, 26 buts pour 35 contre moins 9. Donc, déjà, le différentiel de but commence à baisser, surtout parce que, à force de bien jouer défensivement et les blanchissages multiples qui arrivent, ça aide beaucoup la moyenne de l'Impact. Donc, bravo. À la maison, l'Impact, 7 victoires, 3 défaites, 0 match nul. À l'extérieur, 2 victoires, 9 défaites, 0 match nul. Donc, la tendance est qu'on peut appeler le Saputo d'or. On peut leur rappeler que c'est la forteresse Saputo. Ça va faire du bien au stade parce que un stade qui est pas nécessairement rempli, je pense qu'on a posé quelques questions par rapport à ça.
Hein.
Mais la forteresse Saputo tient à la maison sur l'air Rémigard, du moins depuis le mois de juin approximativement. Bon, on y va avec les questions du public, le plus important. Donc, merci encore à tous ceux qui nous posent des questions. Hashtag CCPP. Vous avez comme suivre Nilton George, puis il va vous répondre, il va vous, vous demander quoi, qui, quoi, comment. Puis vous pouvez poser vos questions.
Si vous écoutez live aussi sur le Périscope, j'ai toujours un petit œil sur les, sur la boîte de conversation. Donc, vous pouvez à tout moment poser des questions sur Périscope et
Un vrai expert sur Twitter. Pour ceux qui nous écoutent sûrement sur le podcast, ben, vous pouvez suivre, revoir le live sur Periscope ou juste nous écouter. Puis, on va entendre, vous entendre les questions. Vous pouvez participer au prochaine émission en laissant vos questions après le prochain match de l'Impact.
Puis, le Periscope ne remplace pas non plus le podcast. C'est toujours disponible très souvent dès le lendemain matin, comme dans la version originale en podcast.
Exactement.
Pour vos trajets au travail ou pour les. Pour vous désennuyer du travail.
Tout à fait. Il y a ça aussi.
Bon, first question.
Number uno.
Miroy Meroy. Bref, je ne sais pas de quelle façon qu'on le dirait. Une petite question sur Jackson Hamel. Il y en a quelques-unes. Sur Jackson Hamel, il nous demande match décevant à New York City. À quel point on blâme le contexte, c'est-à-dire pas jouer depuis longtemps, un gros club en face, petit terrain. À quel point on dit que Garde a peut-être une bonne raison de le laisser sur le banc? Bon, on peut juste parler du match. Hein? On peut pas parler du choix. Pourquoi c'est Mancuso semaine après semaine? C'est probablement à cause de l'entraînement, de ce qu'il voit en entraînement ou niveau stratégie aussi. Il peut, dans un contexte où ces deux avant-centres ne sont pas buteurs cette saison, il peut décider que dans le pire, dans une situation où de toute façon, il ne s'attend pas nécessairement à un but de son avant-centre, un peu à l'image de la France, il s'attend que son avant-centre lui donne d'autres choses que des buts.
Ouais.
Parce que le vrai attaquant de cette équipe, c'est Piatti.
Ça l'a tout le temps été, sauf quand Divayo Drogba était là.
Moi, ce que j'ai trouvé un peu décevant du match à New York, c'est oui, il y a le contexte, là, comme on a expliqué, petit terrain, affrontement un peu inégal. Moi, ce que j'ai pas aimé de Jackson Hamel, rapidement, il a donné l'impression, encore avec son langage corporel, d'être blasé, c'est peut-être un peu fort comme mot. T'sais, je sais que jouer avec Piatti, c'est pas facile. Hein? Tu fais une course, tu fais deux courses, ta troisième course, t'as toujours pas le ballon. Ça peut être lourd à la longue. Mais lui, il est là pour prouver sa place comme titulaire. Il doit démontrer qu'il fait quand même les courses. S'il obtient pas le ballon, c'est pas nécessairement de sa faute. C'est un choix de Piatti. Et quand tu es plus souvent qu'autrement, tu n'auras pas le ballon. T'sais, il faut que tu démontres ta valeur dans ce 11 partant-là. Il faut que tu fasses ton pressing. Il faut que tu sois à la couverture de ton milieu défensif ou des défenseurs centraux. Des fois, il a l'air un peu
nonchalant.
Déjà en train un peu nonchalant et déjà un peu en mode abandon.
Mais ça a toujours été son style d'avoir l'air nonchalant. C'est plus son langage corporel, mais je pense pas qu'il s'en fout nécessairement, mais
exact. Non, je le connais pas du tout. Mais, tu sais, oui, il y a des styles comme ça.
Il y a les circonstances, les blessures, le fait que le coach peut-être l'a moins entraînement, mais c'est vrai. C'est juste là, on a déjà parlé de ça. Je pense il y a une ou deux épisodes, mais le problème, regarde, l'Impact a d'autres chats à fouetter. L'Impact cherche un attaquant. L'Impact n'a toujours pas signé Jimmy Briand, du moins, le transfert n'est pas fait ou Jimmy Briand n'a pas été libéré par Guingamp. Donc, on est en mode attente. Il se peut que rien n'arrive, que ce serait vraiment mauvais, mais le mercato est encore long.
Ça commence. On le dit, cette phrase-là, on l'utilise souvent. On l'a utilisé en janvier, on l'a utilisé l'année passée. C'est pas vrai, là. C'est pas si long que ça, là.
C'est vrai. Mais pour revenir sur Jackson Hamel, c'est juste que, voilà, nouveau coach, tout le monde doit se reprouver et puis c'est tout. Si Vargas avait plus de chance que tout le monde, avant Mancuso et Jackson Hamel, ça prouve que Grimigard cherche quelque chose que ni Jackson Hamel ni Mancuso lui avaient donné au début, même si Mancuso était un peu titulaire au début de la saison. Mais ce qui est juste dommage avec Jackson Hamel, c'est que bon, t'as le côté, il est local, on l'aime bien, etc. Donc on a une certaine subjectivité envers lui, jusqu'à un certain point, qui s'arrête maintenant pour dire, il doit faire quelque chose à l'entraînement qui n'intéresse pas le coach, ou le coach a un dispositif tactique qui fait dire que Jackson Hamel ne peut pas lui offrir le rendement ou le output ou quel que soit quelle que soit la chose ou les choses qu'il demande de faire, qu'il n'est pas capable ou ne veut pas faire, bah, c'est tout. Si c'est un problème de relation, Max Lamel ne serait pas là, il serait prêté à Ottawa, il serait mis au waiver ou il aurait juste benché sans même le mentionner. Il fait partie des options, mais il ne voit pas comme un fou du roi ou un cheval dans son échiquier, ça l'intéresse beaucoup moins. C'est plus une question de performance. Mancuso travaille beaucoup, travaille fort sur le terrain, mais travaille mal en tant qu'attaquant. En tant que joueur de foot, Mancuso, c'est pas mal, mais en tant qu'attaquant, c'est nul. Donc, on se pose des questions, mais là, on est au-delà des questions. On est juste en mode attente, on attend. On attend.
Stéphane Jacques nous demande quand et surtout qui l'impact va accueillir lors de ce mercato. Et bon, si on le savait, hein.
Si on le savait, on serait pas là.
Et on sait les positions. Tout le monde connaît les profils que Rémi Garde veut obtenir dans les prochaines années. Mais il ne faut pas oublier, tu sais, comme dans, il y a eu le délire là, de Joey Saputo avec le statut de Piatti. Dans toutes les phrases qu'il a dites à ce moment-là, il y a une où il disait clairement qu'il allait avoir beaucoup de changements.
Ouais.
Mais là, il faut... C'est Marco, c'est un changement qu'on savait. Là. Ça fait partie. Oui, ça fait 6 mois qu'on attend le départ de Dominic Oduro. On attend, il n'y a rien qui arrive. Les rumeurs sur un échange ou un transfert potentiel de Victor Cabrera, ça fait beaucoup de sens. L'utilisation de Vargas aussi, ça peut porter. On peut imaginer qu'ils regardent aussi peut-être avec une solution autre avec Vargas. Il y a plein d'éléments, mais c'est clair dans la tête du staff. C'est qu'ils ont déjà identifié les joueurs qu'il faut se débarrasser, mais entre-temps, le plus gros défi de ce club-là, c'est accueillir, là, c'est recruter les joueurs. L'Impact de Montréal n'a pas de budget pour aller chercher les joueurs qu'ils veulent à tout prix. Il faut toujours une tempête parfaite pour aller chercher un joueur. Tu sais, Piatti, c'était parfait, mais des occasions comme Piatti, ça ne va pas se reproduire. Divayo, c'est la même chose. Dès qu'il trouve... Tu sais, Jimmy Briand, c'est pas un grand ténor du foot. Là. Ça devrait être un recrutement assez facile à faire.
Et en plus, et pourtant, en termes de base, Jimmy Briand ne devrait pas générer trop de base pour ça. C'est un joueur.
C'est pas le but non plus.
C'est ça, c'est un bon joueur de foot qui fait le travail par son expérience. On espère que ça marche à Montréal parce qu'il n'y a aucune garantie qu'il marche, que ça fit avec la ligue, avec le club. On ne sait jamais. Mais l'anticipation commence à être un peu tannant. C'est quand c'est quelque chose d'être tannant et quelque chose d'être très frustrant. Par rapport à un club qui a besoin de renfort, qui veut se renforcer, mais comme tu as dit, ils vont pas payer pour les transferts. Ils l'ont fait. Mais, ils vont pas payer pour les transferts pour certains joueurs, alors que pour d'autres choix beaucoup plus douteux et beaucoup plus louches, le club décide de payer un certain montant, alors que c'est une perte d'argent. Et le salaire aussi, on s'avère que c'est catastrophique, mais pour certains joueurs, on le savait à l'avance. Mais honnêtement, en termes de mercato, là, on attend. C'est pas le Real Madrid, c'est pas la Juventus, c'est pas Man United. Il y a pas des rumeurs qui sortent à chaque 5 minutes qui sont 30% vraies et le reste c'est du BS. Donc c'est important de prendre en compte. C'est une question de patience, c'est un jeu de patience. On peut rien faire de plus.
Une question que je vois arriver là de Espace CH. Est-ce qu'il serait temps de changer les têtes dirigeantes à l'Impact de Montréal?
Ça va pas. Ils vont pas se virer eux-mêmes, donc qu'est-ce que tu veux faire? ils vont pas se faire dégager eux-mêmes. Ça se fait pas. Donc next question. Donc question de l'espace CH, mais ils vont pas se dégager eux-mêmes. Donc ça s'arrête là. Il faut que Joey Saputo décide de mettre de côté De Santis et Braz, puis c'est tout. À part ça, il y aura pas de l'auto-exclusion. C'est aussi simple que ça.
En même temps, si c'est compliqué recruter des joueurs, c'est aussi compliqué recruter un staff. Là. Aller chercher des recruteurs ou aller chercher des directeurs techniques, tout ça, c'est plus ou moins utile rendu où est-ce qu'on est rendu. Si on veut faire ça, c'est en plein milieu d'une saison avec un plan. C'est pas, on peut pas changer comme ça le navire. Là. Il est vers une destination qui est les playoffs avec un budget limité. Le vrai staff, les vraies personnes qui prennent des décisions présentement, c'est Rémi Garde et sa garde rapprochée. T'sais. C'est vraiment eux. Là. Puis Braz et DeSantis, ça fait bizarre à dire, mais ils sont au service de Rémi Garde.
Oui, puis tout le monde va évaluer ensemble. Maintenant, c'est un vrai melting pot. Tout le monde travaille bien ensemble. Il n'y a pas de chicane. Il n'y a jamais eu de chicane, en tout cas. Mais il n'y a pas de, c'est pas comme Justin Marsh ou Schalibaum ou, c'est plus comme Klopas ou Klopas.
Ouais, ils sont beaucoup plus organisés qu'à l'époque, là. On s'entend, là.
Oui, c'est vrai. Mais maintenant, voilà, personne va partir, à moins que ce soit un choix personnel ou une décision personnelle. Ça bouge. Il y a rien qui va bouger. Est-ce qu'il y aura une addition dans le staff technique, au niveau de la direction? J'ai un gros doute. S'ils ne veulent pas payer des transferts, ils ne vont pas ajouter un poste pour payer de l'argent, quelqu'un pour faire du scouting ou autre, ou avoir un directeur du recrutement. Ça ne va pas arriver. Voilà, next.
À la limite, ils vont ajouter dans leur carnet d'adresse un autre agent, c'est tout.
Si, il est bon l'agent, puis on a des bons joueurs, c'est parfait. Beaucoup de clubs font ça. Jorge Mendes, c'est agent et directeur sportif de beaucoup de clubs.
Oui, mais il m'a même rendu propriétaire d'un club.
En plus,
ça c'est le next level. Louis Simon.
Vas-y.
Louis-Simon Babin nous demande une question très facile. Est-ce que l'Impact va se qualifier pour les playoffs? Mais
je vais voir le...
Il y a deux éléments. Il faut que les joueurs clés ne se blessent pas. Et maintenant, Fanny fait partie de ces joueurs clés. T'sais. Les autres, on les connaît. Piatti se blesse et c'est la catastrophe. Mais ça, il n'y a rien. On n'invente rien. Piet se blesse. C'est presque une catastrophe aussi parce qu'il n'y a personne d'autre pour jouer son rôle.
C'est vrai.
Il y a ces trois éléments-là. La défensive doit rester en forme, en santé. Piet doit être capable de continuer à aligner ses minutes de façon extraordinaire. Puis Piatti, c'est 80% du résultat de l'équipe. L'autre élément, c'est un peu la question précédente, c'est le mercato. Là. Ce club-là, ce qu'ils ont en place comme effectif, se qualifier pour les playoffs, c'est le maximum qu'ils puissent faire. Puis il faut des bons résultats ailleurs. Là. Il faut que Columbus tombe, il faut que New England tombe, etc. Parce que les équipes autour avec qui on se bat auront un meilleur effectif que Montréal, selon moi.
Oui, mais Orlando, je ne fais plus confiance. L'Union, je pense qu'ils ont fini leur recrutement. Ils ne vont pas trop prendre cet été, mais on verra. Eux, ils sont en mode de... Je ne sais pas trop ce qu'ils font à Philadelphie, mais c'est tout en moyen. Toronto FC, je pense qu'ils vont se concentrer sur le championnat canadien.
Oui, c'est ça.
DC United, est-ce qu'avec Wayne Rooney, ils vont pouvoir rattraper? Ils ont 14 points, 11e. Bon dernier dans
l'Est. Oui, mais il n'y a pas juste ça. Il y a les matchs à domicile aussi de DC. Là.
Ça, c'est vrai.
La fameuse séquence là, qui pourrait.
Exactement. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on peut prendre
en compte...
Ils sont loin. Mais est-ce qu'on peut prendre en compte que DC United va monter? Est-ce qu'on peut prendre en compte que Chicago va monter la cadence? L'Impact va se battre pour la 6e ou 5e place, a priori. Et comme tu as dit, mis à part Columbus qui crache et les Rebels peut-être. Donc, c'est faisable. Le no playoff n'est peut-être plus valide en ce moment parce que.
Non, exact. Parce que être absolument certain que cette équipe-là ne fait pas les playoffs, c'est impossible.
Ouais. Donc, exactement. Donc, c'est pourquoi c'est important de prendre en compte ce que tu viens de dire, Mercato, ce qui va arriver. Ce que les autres font, l'Impact ne peut pas contrôler. Il peut juste contrôler les matchs contre ses adversaires directs pour faire des séries. Pour le reste, recrute, intacte tes nouveaux joueurs correctement et tu espères que ça marche bien, que la chimie clique. C'est pas comme si Tider était une catastrophe en termes de recrutement. Là, je trouve qu'il monte sa valeur. Enfin, il l'a déjà montré avant, mais là, juste qu'on le voit mieux parce que l'équipe gagne. Et en plus, il marque des buts. Donc là, on est content parce qu'il marque des buts alors que c'est même pas son rôle premier. Mais bon, c'est l'ironie du sort, l'ironie du résultat et du but. Next.
Tommy Bézil nous demande un autre jeu blanc pour Bush et l'Impact. Sommes-nous rendus une puissance défensive depuis juin?
Du moins, c'est un point fort de l'Impact. Les clubs, quand ils font un scouting sur l'Impact, ça défend bien, c'est solide, les latéraux ne montent pas trop, sauf sur quelques petits bursts d'attaque, Lovitz et Duval. Camacho, Fanny, Raitala, c'est solide, Cabrera, c'est un bon backup, et Bush est amélioré. Donc, on sait que la défense, c'était le but de Camigard au début de la saison. C'est ce qu'il voulait. Il voulait pas se prendre des raclettes 3-0. Il voulait gagner des matchs 1-0, 2-1. Et là, l'Impact a quand même beaucoup de bons fichages. Il y a au moins 5 ou 6, si je me rappelle, si c'est pas plus, c'est pas mal. Et voilà. Moi, je trouve que ça défend bien. Puis tant mieux. Ils ont bien fait de recruter en défense. Encore une fois, t'as le miracle Rod Fanny qui vient sauver la saison. Si t'es pas là, c'est incroyable là, comment on dépend d'un joueur qui est venu de nulle part, qui est venu sur un contrat de 6 mois pour dire, OK, lui, il est tellement bon qu'on va le garder pour encore un an.
Ouais, ça, c'est un peu triste là, de dépendre comme ça d'un joueur. Tu sais, la réponse facile à Tommy, c'est New York City. Là. On a affronté un gros club chez eux et on a pris 3 buts.
Ouais, sans mais David donc, Villa.
La réponse... non,
on a oublié celui-là.
Donc, la réponse facile, c'est celle-là. Tu sais, le deuxième élément de réponse, c'est oui, on a blanchi Orlando 2 fois, qui est dans catastrophe. On a pris 1 but contre Colorado. San Jose, on l'a vu sur le terrain, c'était pas beau. La belle performance.
Contre Kansas City, c'était bien.
Exact, c'est ça. C'est ce match-là qu'il faut se dire OK, le reste, on les a blanchis, c'était des mauvaises équipes, mais on ne peut pas faire plus que blanchir une mauvaise équipe. Le match contre Kansas City, c'est sur ça que les joueurs doivent se concentrer et croire en eux, parce que si cette équipe réussit à faire les playoffs, ce ne sera pas avec son offensive, c'est avec sa solidité défensive. Puis un gars comme Silva va apporter ça, parce que des joueurs hyper offensifs dans ce club-là, il n'y en a pas tant que ça. Il y a Piatti et c'est tout. Là. Donc, si le bloc... Le bloc défensif est capable de soutenir, mais il ne faut pas qu'il soit trop en mode défense. Ils n'ont jamais réussi à tenir un match au complet en étant un bloc bas puis espérer des contre-attaques.
Parce non.
Offensivement, ce qui fonctionnait avant, c'est-à-dire avec un Oduro qui pouvait apporter une attaque surprise, ouais. Il en faisait 10, il y en avait une qui finissait par fonctionner. Maintenant, ce n'est pas possible. T'sais, Silva ne va pas apporter ce genre de truc-là. T'sais, Piatti est capable de créer de la magie tout seul, mais on l'a vu, il y a quand même ses limites. Donc, on voit que Rémi Garde veut qu'on soit une équipe beaucoup plus solide défensivement, avec un bloc très, très étroit, compact, détriment de l'offensive. Puis ça va donner ce que ça va donner, mais pour ça, il faut absolument obtenir un avant-centre de qualité. On se répète, mais au moins, il y a un élément comme ça qui semble être en voie d'être réglé. Tu sais, ça ne sera jamais parfait. Là. Il n'y a pas une équipe parfaite en défensive de toute façon, mais je suis très, très, très à l'aise défensivement avec l'effectif en place. Là.
Mais le bloc défensif est aussi au service de la transition rapide ou de l'attaque. Le Vermigard veut récupérer le ballon rapidement proprement. Voilà, Camacho, Fanny.
C'est là la grosse défensive, c'est la grosse différence de la défensive.
Voilà, la première passe, la transition, Piet, Taylor, c'est des profils qui sont le même Piet, ils s'améliorent
beaucoup. Ça balance pas, le ballon n'est pas balancé à moins d'une nécessité. Là.
Ouais.
Il ne balance aucun ballon.
Exactement, donc ça va in and out comme ça, puis c'est important. Les latéraux, comme j'avais dit avant, ils vont de temps en temps monter quand ils sentent le coup, surtout quand l'équipe leur donne l'espace et l'impact est capable de monter en bloc. On les voit monter en bloc ensemble. Donc, le défenseur central sont à la ligne du milieu de terrain et ça joue autour. Donc, au moins, il y a du jeu. Les autres équipes respectent l'impact et respectent le fait que l'impact joue bien à la maison. Donc, on voit ce feeling-là. Bon, Sporting Kansas City, ils se sont fait prendre, mais en même temps, l'impact a bien joué. Et t'as raison, l'impact ne devrait pas jouer un bloc défensif juste pour jouer un bloc défensif. Il y a une raison peut-être derrière ça. Puis derrière ça, c'est vraiment de récupérer rapidement et aller vers l'avant. Je crois que l'impact est un numéro 10 et un autre attaquant. Changer un système comme ça pour dire ben, on va commencer à jouer à la pas balle, c'est un peu plus dur et ça prend un peu plus de temps.
J'avais une question c'était qui a posé cette question-là? C'était sur Justin Miram. Voyons. Oui, je la retrouve. Jonathan Richard. Nous demande qui semble avoir un clash entre Justin Merrin et Orlando. Est-ce qu'il pourrait intéresser l'Impact de Montréal?
Le profil, oui, mais il coûte très cher. Là. Il va coûter très cher en salaire, il va coûter très cher en transfert, en échange d'allocation.
Oui, son salaire, je ne me souviens pas, je vais essayer de le trouver. Mais son profil ne correspond pas nécessairement à ce qu'on a besoin. En début de saison, il pouvait avoir des rumeurs.
Il ne correspond plus, je trouve, en tout cas.
Ouais. Oui, ça pouvait être justifié à moins, puis je vois pas l'Impact faire ça, à moins que Rémi Garde décide de déplacer de façon définitive Piatti comme avant-centre puis mettre un Justin Merrim à gauche. Mais ça commence à être une solution.
Mais Garde l'a vu.
On est plus loin que la solution B.
Mais Garde a vu Merrim jouer assez 2 fois pour avoir une idée de ce qu'il vaut. Donc, si ça l'intéresse, ben, il va glisser à moi. Puis sinon, ça s'arrête là.
Championnat canadien. On nous demande dans les buts. Est-ce qu'on voit finalement que Diop ou on y va avec Pantenis?
C'est une bonne question. Diop, je suis étonné qu'il a joué. Il n'a même pas joué contre New York. C'est ça que je comprends pas. Je sais pas. Ouais. Peut-être que je suis naïf. Je sais pas. Je m'attendais qu'il soit là contre New York. Mais en même temps, oui, mais je suis bête. Et l'Impact avait besoin de gagner. Donc, ils font jouer les meilleurs joueurs. Donc, quoi qu'il arrive.
Historiquement, le championnat canadien a toujours été utilisé pour faire jouer nos gardiens auxiliaires.
Moi, je dis, si Diop s'en va à l'été, ben, fais jouer Pantémis. Ça te comble un joueur titulaire canadien obligatoire sur la feuille de match pour le championnat canadien. Donc, vas-y pour Pantémis, donne une belle expérience. À moins que le club veut aussi aller loin en championnat canadien, mais c'est contre Vancouver. Donc, tu vas te taper Vancouver à la maison pour ensuite aller à Portland samedi et pour jouer. Au moins, le fait que tu joues à Portland samedi, ça arrange l'Impact parce qu'il joue Vancouver 2-3 jours après. C'est la porte à côté. Donc, en termes de déplacement, c'est pas si grave que ça.
Mais
je dis Pantémis, pourquoi pas? Pantémis, ouais.
Peut-être qu'il va arriver par défaut, là, parce que clairement, ça va être Petrasso qui va jouer sur le côté droit. L'avancante, ça va être Jackson Hamel. Ça nous fait deux.
À la maison, je pense qu'ils vont faire jouer la moitié, ça des bons titulaires, là, j'ai l'impression. Je pense qu'ils vont aller avec Piatti, ils vont aller avec Taïda, ils vont aller avec Piatt.
Je sais pas.
Vargas va jouer.
J'ai aucune idée de la priorité pour Imigarn face à ce championnat canadien. J'ai des doutes que ça soit très très haut dans sa priorité. Même si les discours, c'est pas dans les discours d'après entraînement qu'on va avoir un élément de réponse là. T'sais, tout le monde dit qu'on essaye de donner des minutes, mais vraiment pas convaincu.
Non, c'est vrai. Mais honnêtement, on est convaincu de rien cette saison. On fait juste attendre. Littéralement, tout ce qu'on peut faire, c'est match par match, on attend. Puis ce qui est important, c'est les 3 points Newton. Il y a que les 3 points qui comptent en ce moment, mais on est en mode d'attente. C'est un peu ennuyant comme saison. Mais c'est même si Marcato est intéressant, je trouve qu'on est juste genre... On a tellement perdu de temps avec une pré-saison catastrophique par rapport aux attentes qu'on a envers un club qui était prêt pour un renouveau. On se dit, on a du retard à rattraper à chaque fois. Donc, c'est un peu lourd. Bon, désolé pour la réponse déprimante.
Là, on a plusieurs questions différentes sur le même sujet. Là, Mathieu Charon, Pierre Proulx, Benoît Normand nous posent toutes des questions sur la foule. Les dernières foules qui n'ont pas été annoncées par le speaker... après coup, on voit qu'on tourne autour de 16, 15 000. Si on regarde dans les classements des foules dans la MLS, on se retrouve souvent dans les 2-3 derniers au niveau spectateur. As-tu une opinion là-dessus ou un commentaire, suggestion?
Regarde, honnêtement, c'est plus... il n'y a pas nécessairement de base. L'équipe perdait souvent. Ça fait un bout qu'on les oublie. Hein. Ils n'ont pas joué beaucoup à la maison. Ils n'ont pas eu autant de matchs consécutifs à la maison. On met une sorte de home stretch, comme on dit. Mais c'est juste, il y a une certaine indifférence. C'est déjà pas mal qu'ils ont 15, 16, 17 000. Je dis, c'est bien. C'est bien pour. Honnêtement, soit positif. C'est pas comme s'il y avait Drogba qui était là. Donc, on savait qu'il n'y avait pas à avoir 21 000. Là. À moins que, dès qu'on s'approche d'une course aux séries et puis du mois d'août avec du recrutement et du mercato intéressant, ça crée du buzz. Mais c'est pas comme si, j'ai pas l'impression que, waouh, l'Impact, j'ai vraiment envie d'y aller. J'avoue que, il y avait quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose samedi, un événement? Parce que 15 000, c'était un peu bas, mais c'est San Jose. Il y avait un événement ou quelque chose samedi?
Ben, Montréal a toujours quelque chose, on s'entend que.
Oui, mais il y avait rien de, ok. Je voyais, il y avait rien nécessairement de spécial tant que ça, à part le bon festival, etc. Là, mais. C'est bizarre. 15 000, c'était un peu bas contre San Jose, mais est-ce qu'on est étonné tant que ça? Vous voulez qu'on l'explique, mais on dit est-ce qu'on est étonné par ces chiffres-là? C'est indicateur d'une saison qui est inintéressante. L'Impact nous a rendu indifférents depuis le mois de mars. Donc là, ils gagnent. Il faut qu'ils fassent ce qu'ils font en ce moment pour au moins attirer l'attention. T'as la base de la Coupe du Monde est partie. Bon, on verra en juillet-août. Mais là, juillet-août, la saison est déjà finie, quoi. Donc. c'est bizarre.
Moi, je le sais pas. Il y a beaucoup de gens qui parlent des prix des billets. Là. Moi, j'ai pas vu de différence dans ma section. Ça a été la même chose là, d'une année à l'autre. Les prix n'ont pas changé. Il y a eu certaines sections qui ont changé. Moi, personnellement, là, puis c'est juste moi, là, c'est le sujet des foules. Là.
Si on a la réponse, on est riche, déjà.
Ouais.
De un. Non, si on comprend le comportement démographique, c'est un gros sujet. Excuse-moi, Nathan. Vas-y.
Quand j'entends les gens, quelqu'un, là, que ce soit un média ou tweet ou ami, me parler d'une foule dans un événement sportif, personnellement, je m'en fous.
Moi aussi, je te rejoins.
C'est rendu un réflexe là, de parler de foule, mais je veux dire, quand on va dans un autre spectacle, un autre événement, est-ce qu'on dit combien qu'il y a de gens là? On s'en fout.
Ben, les matchs canadiens, ils en parlent si.
Non, mais je parle pas de sport.
Hors sport.
Je veux dire, est-ce qu'on. C'est le festival de jazz, là.
C'est pas une obsession, c'est vrai.
Est-ce que quelqu'un. Quand quelqu'un fait un topo là, sur le festival de jazz, là, il dit-tu, il y avait tant de personnes, on s'en fout.
Ben, pour un. Pour un grand artiste, ils vont dire oui, c'est ça le comble, ou il y avait. C'était presque ça le comble. Mais ils ont parlé de façon négative si. La salle Wilfried Pelletier à la place des Jardins n'est pas remplie pour, je sais pas, moi, Dave Chappelle, pour Bruce Springsteen ou.
Mais on n'en parle pas. Moi, je ne sais pas si c'est pas contre-productif parler d'une foule. S'il y a 15 000 personnes, puis toi, tu n'es pas allé au stade, tu es dans ton auto, tu entends parler de la foule décevante de 15 000, tu veux-tu y aller la semaine prochaine?
Ouais, tu dis, moi, hein, pourquoi j'irai? Ouais.
Ben, j'irai pas.
Non, c'est vrai, mais.
La foule
a tout le temps été associée avec. La foule sportive a tout le temps été associée avec l'événement sportif. Ça, c'est évident. Si en Russie, on voit des gradins vides, je te garantis, on en parlerait.
Oui, mais. Il y a plein de contextes qu'on connaît pas. Je veux dire, à Cincinnati, il y a une foule de 25 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, 25 000 pour.
Ça fait beaucoup de monde. Par rapport à la moyenne qu'on vend à MLS, c'est énormément de monde pour une équipe qui n'était même pas garantie d'avoir une franchise à MLS il y a à peine 2 ans. C'est juste qu'on compare. Quand je vois ça,
25 000, je dis tabarnouche, est-ce qu'il y a eu 15 000 billets à 5 $? Est-ce qu'il y a eu un autre 5 000 billets donnés? Oui. Je m'en fous complètement. Quand je vois Atlanta full house, là, je fais wow, comment ça se fait qu'une ville comme Atlanta est capable d'attirer tant d'amateurs de foot. Pourquoi? Tu veux aller voir Atlanta? Moi, j'ai un élément de réponse. Pourquoi je veux aller voir Atlanta? Parce que le show, il est bon. Voilà. Le show de l'Impact de Montréal, est-ce qu'il est vraiment un must-see?
Est-ce qu'il a déjà été bon? C'est pas une question piège, d'après toi.
Non, le spectacle a été rarement bon, mais il a déjà été intriguant pour beaucoup de gens.
Donc, c'est
l'épisode de Drogba.
Si on enlève la Ligue des champions CONCACAF, on focus sur Drogba. On est d'accord que le bas Drogba et les deux runs de série a fait que ça. La première run et Drogba, ça a déjà préparé pour la saison 2017, 2016, pardon. Et la grosse run, finale de conférence, etc., a donné du bas médiatique et même duré durant leur saison, l'entre-saison. Mais c'est 2017, ça n'a pas suivi automatiquement. La vente de billets de saison a augmenté, mais on n'est pas passé à 12 000 billets de saison vendus. Donc, il y a un travail de vente. Mais moi, ce que je te rejoins sur la question de la foule, moi, on me dit la foule. OK, il y a 12 000, il y a 17 000, il y a 21 000. OK, ça le comble, c'est bien. Moi, ce que je suis plus intéressé, c'est pourquoi, comment on peut l'expliquer ou pas l'expliquer. Et justement, si les gens font juste dire, regardez, il y a 15 000, c'est pas bon, le débat s'arrête là. OK, on va l'oublier, puis c'est fini. Ça va dans l'éther et ça se disparaît dans l'éther, puis on n'en parle plus. Et ça, je trouve que c'est important d'aller dans le fond du sujet. Moi, je n'ai pas un degré en géographie, géolocalisation démographique, socio-économique d'un quartier ou d'une ville. Mais si l'Impact gagnait des matchs, puis il y avait des joueurs, un ou deux joueurs qu'on connaissait un peu à l'international, il y aurait plus de gens. Tu ramènes Ben Arfa, mais les Français vont venir. Pas tant que ça, mais ils vont venir. Tu ramènes, Tider, c'est un international algérien, mais si c'est pas lui qui va attirer beaucoup d'Algériens, puis on a demandé, je sais pas s'il est algérien ici, que ce soit d'origine algérienne ou mais même des immigrés, ils vont venir parce qu'il y a une star algérienne.
Mais ça existe pas tant que ça, des stars qui peuvent attirer des. C'est un mythe.
Et Drogba a donné, on a eu le sommet avec Drogba. Drogba, c'était le top du top. Tu veux pas avoir mieux que ça. À part avoir Ronaldo, Cristiano Ronaldo, maintenant là. Je ne vois pas un autre joueur qui aurait attiré autant de gens qui ne s'appellent pas Didier Drogba. Parce que Drogba, c'était le package parfait. Médiatique, politique, socio-économique,
c'est compliqué à planer,
ça. Ouais, ben oui, c'était le package parfait. Il n'existe pas. Même Eto'o, c'est pas Drogba. Dans le sens, Eto'o est énorme. Mais ce que Drogba avait comme histoire, comme challenge, comme ce qui l'attire. Il y a même les gars de Victor Magazine, Action Camara, qui sont partis le voir à Phoenix faire une histoire sur lui, pour parler de victoire. Tu sais, il y a Drogba est attirant. Il y a quelque chose, un aimant international. Là où il va, on l'écoute. Là où il va, on s'arrête pour lui parler. Puis on veut l'entendre parler. On veut le voir jouer. Il est parti à Phoenix. Il n'est pas parti ailleurs. Il n'est pas parti à Seattle. Il n'est pas parti en Europe pour faire un club. Et il a un plan spécifique. Et c'est pourquoi, désolé si je diverge un peu sur la question de la foule, mais je fais un peu de reverse engineering. C'est pour dire, OK, si tu as 15 000 et Drogba n'est pas là, sois pas étonné. C'est déjà pas mal qu'il y ait 15 000 pour une équipe qui perd tout le temps. Mais l'Impact, c'est un événement d'été comme d'autres en ce moment. C'est du bouche à oreille. Et le stade, il est beau. Tu peux manger et boire pas trop cher, ou tu vas pas claquer ces $50 pour manger. T'as un parking à $12 à côté, sans Pierre Charbonneau. T'es content, ben, ou l'Arena, je sais plus c'est quoi qui est à côté là, mais du stade. Et c'est un spectacle parmi d'autres. Hochelaga, c'est pas trop loin du centre-ville. T'as le métro, t'as une voiture, c'est correct, c'est pas trop dégueulasse. Il y a moins de construction cet été dans ce coin-là, entre guillemets. Voilà, c'est. Mais maintenant, moi, ça m'intéresse pas. Juste, les gens disent, il y a moins de gens. Après, ça s'arrête là. Pourquoi en parler? Si tu continues pas la réflexion, tant qu'on n'a pas, je sais pas moi, on peut parler à un expert, on peut faire un entretien avec un expert pour un peu expliquer ce qui se passe autour de l'Impact. Mais c'est clair que la corrélation entre les activités médias sociaux qu'on voit autour du hashtag MFC et ce qui se passe au stade, c'est assez différent. Je pense même pas que c'est la même foule. Et
on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de marketing dans la vision un peu ancienne de marketing, de publicité, tout ça. C'est un peu la pensée magique qu'en rajoutant des panneaux puis sur les autobus, les autoroutes, les abribus, qu'on va avoir des gens qui vont. C'est la vieille façon de vendre des chars. Là. C'est pas ça. Là. Si les gens viennent pas, c'est pas vrai que la ville de Montréal sait qu'il existe un club à Montréal. L'amateur de soccer, l'européen, l'africain, il sait qu'il existe une équipe à Montréal. On n'a pas besoin de l'annoncer. S'il veut venir à Montréal, il sait comment s'y prendre. T'sais. C'est d'autres choses. Là.
Voilà, l'Impact de Montréal n'est pas un secret. C'est pas un secret caché. C'est pas le Sphinx, il n'y a pas un code à donner. On sait qu'ils sont là. On sait où vous êtes.
Dépenser un quart de million dans une campagne publicitaire, c'est probablement dépenser tout l'argent, c'est la mettre à la poubelle. Il n'y a pratiquement aucun billet que vous allez acheter à cause de ça. Il y a d'autres choses. Il y a des éléments plus fondamentaux, plus ancrés. Pourquoi la rue Saint-Denis est bloquée par tant de Français qui aiment voir du foot, mais qui ne viennent pas au stade? C'est là qu'il faut se poser cette question-là. C'est impossible à plaire à un public si diversifié. À Montréal, l'Algérien ne va pas aimer la même chose que l'Européen. Là. Il faut arrêter d'essayer d'aller plaire à des tranches de population. Il faut essayer à plaire à l'amateur de foot montréalais. Comprendre pourquoi le gars qui écoute la Premier League samedi matin, il ne vient pas samedi soir voir le club. Est-ce que c'est une mauvaise utilisation des joueurs, une mauvaise façon de s'afficher de la visibilité? C'est-tu un plan qui n'arrête pas de changer année après année, que ce soit dans l'exécution ou personnes?
Clairement.
De l'extérieur, c'est toujours difficile de l'extérieur de juger, mais de l'extérieur, j'ai l'impression qu'on parle aux mauvaises personnes. Le message qui est envoyé s'adresse à des personnes qui, de toute façon, ont peu de chances de venir.
Mais l'impact est quand même relativement fort dans les médias sociaux. Facebook, ça pousse beaucoup. Je vois beaucoup de leurs pubs qui me rentrent dans la tête, qui rentrent dans mon feed. Je vois les interactions. Il y a du monde. Je pense que ces gens-là sont vendus, mais pas tous. Je reviens sur un point que tu avais dit par rapport à ceux qui l'amateur de foot montréalais. Je me demande jusqu'à quel point l'impact est présent ou pense être présent à travers les gens qui pratiquent le sport. Je parle pas des triple A et des semi-pro. Je parle juste les gens qui jouent au futsal, à Laval, au Soccer Five, à d'autres initiatives. Mm-hmm. Je suis curieux de voir. Parce qu'en plus, c'est que là, ils ont tout un nouveau public qui s'appelle le public e-sport FIFA avec l'ISMTL. Je me demande jusqu'à quel point ils sont capables d'identifier ces gens du e-sport Montréal, ces joueurs de FIFA. Cette communauté, est-ce que c'est des gens? Est-ce que ces gens, joueurs FIFA, jouent aussi au foot? Est-ce que les joueurs de foot jouent aussi à FIFA? Est-ce que le football à 5, futsal, c'est compatible avec ce que l'Impact peut chercher en termes de clients et clientèle? Il y a tout ça. Et juste le fait que, disons qu'il y a une moyenne de 16 000, 17 000 durant la saison. Okay? On oublie le stade olympique. On a 17 000. Les billets utilisés sont combien? On est encore à 10 000? 9 500? 10 000? 11 000? Pourquoi l'Impact n'est pas encore à 15 000? C'est ça la question. Ce qui te manque, c'est l'Impact serait beaucoup moins stressé s'il pouvait avoir un 12, 13, 14 000 de billets de saison. Comme ça, le revenu est déjà garanti pendant un an ou deux. Et surtout, ils sont pas chers, les billets de saison. Il y a des gars, je parlais à des gens qui m'ont tuté, qui m'ont parlé en personne au stade. Leurs billets, là, tu sais, la section en face de la galerie de presse, juste opposé de toi, là. L'opposé de toi. Je pense qu'il me disait, avec les billets de saison, ça coûtait genre 25$ par match ou 30$ par match maximum. Puis, tu sais, en plus, ils font ça par des paiements, puis c'est vraiment pas cher. Et c'est vraiment pas cher. C'est pas cher en termes d'aller avoir un événement sportif régulièrement. Maintenant, qu'est-ce que vaut ce 30$, 40$ par match pour aller voir une équipe MLS contre une autre équipe MLS? Ça, c'est une autre couche d'analyse socio-économique. Mais, à la fin, moi, la conclusion, elle est quand on va arriver. Il y avait l'avant Drogba, il y avait le pendant Drogba, puis là on est dans l'après Drogba. Puis on commence à réaliser comment ce qu'il a fait, c'est hallucinant, et comment aussi l'Impact a besoin de recréer des histoires. La réalité quand Toronto, elle est où? Il y a pas de réalité contre personne, il y a pas, tu sais, les histoires de victoire, parce que si l'Impact n'avait pas perdu comme ils ont perdu pendant la saison, avoir une séquence de 4-5 victoires, c'est énorme pour un club là. C'est genre, wow. Ils ont gagné 5 victoires, 4 sur 5, 5 sur 6. Il y aurait beaucoup plus d'histoires par rapport à ça. Mais la Suisse, la même routine, la même poutine, qui fait partie aussi de la faiblesse de la Ligue qui te rend indifférent jusqu'au mois d'août-septembre. C'est là où tu commences à dire, OK, qu'est-ce qui arrive? Mon club, il est où? OK, il est cinquième. OK, j'ai encore 6 matchs. OK, j'ai le Decision Day. Est-ce que je vais être dedans ou pas? Après, tu as les séries. Donc, il y a aussi le storyline de la Ligue qui est aussi un peu lassant. En plus du gros buzz.
Ouais, mais le storyline de la Ligue, là.
De la Coupe du Monde qui est venu englober tout ça. Donc, je pense que c'est la Coupe du Monde aussi qui a un peu baissé un peu le buzz de la Ligue. Oui, excuse-moi, Nilton.
Mais justement, là, le storyline, les rendez-vous qu'il ne faut pas que tu manques, tout ça, le club doit le créer lui-même.
Ouais.
Il faut que ce soit eux-mêmes qui créent ce contenu, si tu veux. Là. Il ne faut pas qu'ils attendent après les gens. Il ne faut pas qu'ils attendent après les médias parce que le traitement médiatique, ce ne sera pas nécessairement celui que tu veux. Maintenant, c'est la façon de faire. Là. Les compagnies créent leur propre contenu. Là. Ouais. Des fois, il y a des compagnies qui n'ont aucun rapport, vont créer leur propre contenu qui a minimum rapport. Il y a des compagnies d'aviation qui ont leur propre podcast. Là. Il y a des niveaux.
Il ne faut pas trop dire. C'est des bonnes idées, ça. Il faut arrêter.
Non,
je suis d'accord. Et justement, c'est dans ce sens-là.
C'est pas en écrivant un texte par jour ou en mettant il faut du budget, mais il faut du monde là qui sont là, qui parlent. Il faut que ça soit les gens qui créent ce contenu-là chez l'Impact de Montréal, ça soit potentiellement des gens qui n'auraient pas venu au match, mais qui seraient intéressés, qui sont dans le borderline. Il ne faut pas que ça soit... J'ai l'impression que des fois, l'Impact de Montréal sont tellement convaincus que les gens vont venir que ce qu'ils créent comme contenu, c'est pas assez appealing. Il y a des histoires qui sont manquées. Tu sais, je veux dire, un gars comme Piatti, il est mal utilisé. Il veut pas être utilisé. Je comprends. Ouais. Mais tu peux l'utiliser sans qu'il sache, là, dans le fond. Tu peux créer du contenu sur Nacho Piatti sans que ça soit Nacho. Dire, Nacho, t'aimes pas ça, là? T'aimes pas ça Instagram, là? Je sais, c'est pas un truc, là, qui t'allume bien gros. Puis ta présence sur Twitter, c'est minimum. Mais gars, on va s'en occuper. Parce que Ronaldo, là, c'est pas lui qui tweet, hein? C'est pas lui qui fait ses Instagram.
Il vaut mieux pas.
Hein? Mais t'as un gars avec un potentiel marketing énorme. Il parle français. Tu peux lui faire écrire en français, ça va être correct. Tout le monde va comprendre que c'est pas Nacho, mais que c'est en accord avec Nacho.
Oui.
L'impact de Montréal pourrait en faire une superbe vedette à Montréal parce que des vedettes francophones sportives, il n'y en a pas présentement.
Ouais, puis là, je pense que c'est trop tard pour Piatti.
Mais il n'est jamais trop tard.
Il n'est jamais trop tard, mon
ami. Non, mais c'est vrai.
Il n'est jamais.
Regarde, Piet fait son propre marketing sur les médias sociaux. Ouais. Il vend le club à lui tout seul. Il faut utiliser ses gars.
Mais ils vendent aussi sa marque. Piet s'occupe de sa marque et marketing. Il veut avoir des sponsors personnels. Il veut faire son argent aussi. C'est normal. Mais il faut que les deux se retrouvent. Là. Ça, c'est clair.
Regarde mon exemple à moi. Là. Je vais utiliser mon propre exemple. L'impact de Montréal, il y a, je sais pas, 7-8 ans, j'étais un peu indifférent, très snob autour de ce club. Bah. Avec les préjugés qu'on avait, j'y allais pas, ça m'intéressait pas parce que c'était une ligue, selon moi, trop faible pour mes yeux. Si j'étais con, mais c'est pas grave.
T'étais plus jeune aussi.
Pas tant. J'ai voulu m'intéresser à ce club-là. Hey, c'était compliqué, hein? La MLS arrive. Oh, il va y avoir un peu plus de contenu. J'ai essayé de m'intéresser à ce club-là. Ben, il y en avait un peu plus de contenu, il y avait un peu plus de couverture, mais c'est compliqué. Là, j'en voulais encore plus. C'était compliqué à obtenir encore plus. Tu sais, moi-même, il a fallu que je crée moi-même, que je sois à la recherche de contenu pour ce club-là, en fouillant partout. Tu sais, pourquoi tout d'un coup, je me suis retrouvé avec 3000 followers? Parce que je comble un besoin.
C'est vrai. Pourquoi tu penses qu'on marche correctement?
Ça comble un besoin. Et on a peut-être 10% du contenu disponible à donner aux gens. Puis les gens le prennent. Là. Je suis toujours super étonné par, entre guillemets, mon succès parce que je me dis, je dis pas grand-chose. Là. Je donne des informations qui se retrouvent un peu ailleurs. Je le transforme un peu. J'ai un ton différent. Mais l'impact de Montréal là, a un potentiel de contenu illimité. Immense. Il pourrait faire des trucs tellement intéressant. Tu sais, je suis pas quelqu'un de marketing, je suis pas quelqu'un qui est à l'affût de toutes les dernières tendances. Tu pourrais tellement... Le potentiel de ce club-là là, et des joueurs est tellement gros que l'insuccès, si on veut, des guichets, ça m'étonne vraiment, 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 vraiment beaucoup. Si on continue à parler des foules, puis là, ça fait 15 minutes, probablement 20 minutes qu'on parle de ça. Si on continue à parler de façon négative des foules, je vous le dis, là, ça va avoir un impact à long terme encore plus négatif. Les gens vont se dire, j'irai pas. Anyway, il y a tout le temps des billets. Dans, t'sais, le stade n'est pas plein. J'ai pas besoin d'acheter des billets. Continuez à dire qu'il y a 12 000, 13 000, 14 000. Les billets, le nombre de spectateurs va baisser. Déjà, là, on faut avertir tout le monde, il n'y aura pas beaucoup de monde mercredi, OK? Il y a encore moins que 15 000. Tout le monde le sait, pas besoin de le dire, c'est pas important. Il faut qu'on parle du club, de ce qui se passe, en bien ou en mal, faire en sorte que ceux qui ne vont pas se disent « Oh merde, j'ai raté un rendez-vous. »
Ouais, c'est tout. Mais l'impact profite quand même de ces moments. Quand t'es pas au match et puis il y a des bons moments, ils font un peu des teases, puis ils font un peu du trolling entre guillemets gentil. Mais non, c'est vrai, honnêtement, on peut pas dire à personne de ne pas parler des petites foules. C'est à eux de choisir. Et je pense pas que les médias en parlent beaucoup parce que les deux grands médias qui en parlent de l'impact, c'est eux qui, à part l'ADS, qui ont. Parce qu'ils ont pas l'ADS, l'impact.
Ouais, ils ont leur podcast.
Oui, le podcast, mais la télé. Non, mais le podcast, mais la télé. Il y a le bulletin, il y a Frioulé, c'est vrai. Puis Éric Leblanc et puis Gélina, je pense.
Oui, il y a du contenu, oui.
Il y a du contenu.
Donc, souvent l'entraînement.
Donc, je n'ai pas l'impression que même que ce soit TVA Sport, Bell Media avec TSN 690 et RDS qui sont en train de dire « Ah, les foules sont
nulles. » Quand tu cherches du contenu, à la limite, tu ne t'en rends même pas compte d'où ça vient. Regarde, là, RDS produit des contenus probablement de façon quotidienne. Tu es un grand consommateur de l'impact de Montréal et tu cherches d'où ça vient.
Oui. Non, pas nécessairement. Je l'ai. Non, j'ai le contenu, je suis ce contenu, puis c'est tout. Je ne vais pas poser 15 000 questions d'où ça vient. Je m'intéresse. OK, c'est RDS. OK, ils font leur job. Merci, au revoir. TVA Sport, merci, au revoir. En tout cas, mais pour les foules, honnêtement,
je sais pas. C'est un vaste sujet. Ça me
mais là, ils ont jamais remplacé le poste là, de Hugues Légène, non? VP Marketing, là, avant.
En tout cas, il y a une seule fois où ils ont annoncé en grande pompe les 4 VP. Là, depuis, c'est assez secret. Puis, à la limite, c'est pas de nos affaires. Là, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rendu. Qui le fait? Ben, ça, c'est le problème de Joey.
Tout à fait. Bon.
Oh, God.
Il y a encore beaucoup de questions.
Et puis, le plus, c'est que je viens de voir que Matteo Marquez nous a posé une question sur Vargas. Je t'appose, c'est toi qui réponds, parce que sinon, on va encore m'attaquer.
T'as raison.
Est-ce qu'on prend? Si vous étiez Braz ou Nick DeSantis, prêteriez-vous à Vargas pour avoir un spot international disponible au Mercato?
S'ils sont désespérés pour un spot, oui, ils n'ont pas le choix de prêter un joueur. Est-ce que c'est Vargas? C'est le joueur le plus simple à bouger dans le sens Mancuso, il est lourd à bouger en termes de salaire. Vargas, c'est des contacts en Chili, est-ce que tu peux le rapatrier pour 6 mois? Oui, mais en même temps, Gard semble beaucoup aimer Vargas. Donc, dès qu'il n'est pas blessé, il joue. Que ce soit titulaire ou il rentre. Donc, à un moment, j'ai dit, il l'aime assez, il aime son profil pour dire j'ai besoin de lui. Pour les podcasts, Nilton a reculé son micro, il a commencé à rire. Avec aussi des larmes de joie et de tristesse en même temps. Et de fatigue. Nous sommes dimanche, 8h45 p.m. Je pense qu'on va conclure dans pas longtemps. Mais, sur Vargas, voilà, quoi. S'ils sont pas capables d'acheter des places internationales, ils changent Vargas, mais je vois pas la valeur ajoutée de l'échanger. C'est pas comme si t'es un joueur qui est là pour
qu'il m'a payé cher pour jouer. Peu importe, là, tout le monde connaît mon opinion sur Vargas, là. Je vais essayer d'être le plus neutre possible. Mm-hmm. Vargas a coûté plusieurs millions. 2-3.
Facile, oui.
Il faut faire attention avec cet actif-là. Il ne faut pas s'organiser pour qu'à la fin de la saison, sa valeur soit de zéro.
Non, c'est vrai. Il
faut absolument faire attention. C'est quoi les options? On ne sait pas trop qui acheter Vargas. Hein? À l'époque, c'était le
FC Montréal.
FC Montréal, Bologne peut-être. T'sais. Donc, il reste quoi comme solution? Si ça a été acheté par Bologne, on repasse par Bologne et on essaye de le valoriser là-bas en Italie avec un prix en série B ou ailleurs. Ouais. L'autre option, c'est disons qu'il appartient à l'Impact de Montréal, c'est le reprêter quelque part en Amérique du Sud pour que sa valeur augmente, pour qu'on puisse au moins éventuellement soit le développer, le réutiliser ou le transférer dans le marché sud-américain.
Tout à fait.
Même au Chili, il n'y avait pas des statistiques incroyables. Il a été présenté comme « the next best thing », mais il était so-so là, là-bas.
Mais c'est vrai, les options sont là. On les connaît, là. Prêt, rachat, libération, transfert miraculeux avec un profit. Mais c'est…
Mais regarde, pour les places internationales…
C'est plus facile d'en acheter que d'échanger Vargas. Là. C'est trop compliqué. Là.
C'est juste... beaucoup plus facile… l'option Cabrera, parce que derrière Cabrera, on a déjà quatre défenseurs centraux éventuellement. Donc, tu sais.
Et j'ose espérer que Cabrera a une certaine valeur plus intéressante
que Vargas. C'est exactement ce que j'allais dire. Vargas, présentement, même s'il a coûté plus cher, là, Cabrera a plus de valeur, que ce soit au sein même de la MLS ou quelque part en Amérique du Sud.
Non, c'est vrai. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire là, mais. Donc.
Il reste 3 semaines.
Ah oui, au Mercato.
Puis la semaine, ouais.
Bonne nouvelle, José Martinez d'Atlanta a eu sa green card.
Wow, c'est vrai. Ouais.
Bon, c'est qui l'avait dit? Vincent de TVA Sport qui avait dit que l'Impact et les autres clubs canadiens ont parlé à la Ligue depuis un bout sur ce problème-là, sur cet avantage.
Mais nous, on a la solution. On l'a déjà dit, il faut juste qu'ils nous écoutent. Il faudrait faire la version English.
English, hello. Yeah.
Place internationale, une ou deux places internationales supplémentaires aux équipes canadiennes non transférables.
Donc, transférables qui restent seulement au club canadien, puis that's it.
Ou un truc comme après X années avec ce club-là, il n'occupe plus de place internationale, point. Mais
je ne suis pas sûr des ramifications de fait de changer le statut d'un joueur par rapport à la loi du travail. Ça, je ne le sais pas. Mais je préfère que ne pas du tout impliquer le nombre d'années vécues quelque part, juste dire. T'as des places internationales canadiennes exclusives à toi, puis tu joues avec. Oui, par rapport à ça. Au lieu de dire qu'il est travaillé ou pas, juste t'as 2 places internationales de plus que les clubs US qui restent à toi, renouvelables à chaque année, puis c'est tout. Tu fais ce que tu veux avec.
Si on prenait le problème à l'envers, parce que l'objectif de ce problème-là, l'objectif de cette règle-là, c'est pour favoriser les athlètes nord-américains. T'sais, partout ailleurs dans le monde, il faut que tu respectes pas les places internationales, c'est vraiment le nombre de joueurs locaux.
Exactement.
C'est pas ça qui se passe en MLS. Martinez, c'est pas un joueur local. Là. C'est pas ça qui. s'il y avait ce concept-là à l'envers où on disait qu'il faut tant de joueurs nord-américains, c'est réglé, mais bon.
Ouais, c'est un peu fait l'inverse.
Too bad. Dernière question, Dr. Oui. Foot qui nous fait des montages. Là. Dr. Foot, je commence à te targeter tranquillement vers qui es-tu vraiment? parce que là, faire des montages avec des photos de mon Facebook personnel,
on va te trouver
et on va te faire un montage à toi aussi. Franchement, une moustache. Un montage avec une moustache. C'est terrible. Il nous demande, entre autres, l'impact ne crée aucun danger sur corner qu'il tente sur le premier, le deuxième, les petites combinaisons en haut, en bas. Est-ce qu'il y a une solution?
Je trouve que c'était pire avant, non?
Ouais. Moi, je trouve souvent que les gens voient le corner comme un mirage. Là. C'est comme si tout le monde marquait sur corner. Là. La statistique, je ne la connais pas exactement, mais ça doit être au maximum, j'allais dire 5%, c'est peut-être même plus faible que 5% le taux de réussite sur corner. C'est rare de marquer un but sur corner. Il y en a beaucoup, mais...
Oui, mais j'ai l'impression que les livraisons sont meilleures, que ce soit Tider ou Silva qui les prennent, qui prennent les corners.
Mais on n'a pas des grands gabarits non plus. Là. Puis, il n'y a pas juste ça. Là. Il faut le timing.
Il faut un peu la folie, l'agressivité. Mais ça se travaille aux entraînements. Les corners, là, c'est, tu travailles ça à l'entraînement. Tu as des combinaisons en assumant que la livraison est bonne au bon moment, au bon endroit, avec le bon timing. Tu as des stat plays où tu fais des screens, entre guillemets, tu bloques les joueurs. Tu peux demander à Pep. Ce qu'il a fait quand le Maroc, lui, il a compris.
Il y a un peu de tricherie dans la boîte.
Donc c'est ça. Mais maintenant, en plus, avec l'arbitre qui voit tout et le VAR, tirer le maillot, c'est très dur maintenant.
Donc, j'ai trop parlé de VAR dans les derniers 24
heures. T'es fatigué. Mais avec le VAR qui est là, moi, honnêtement, et le tirage du maillot, même avant le VAR, qui sont beaucoup plus sanctionnés qu'autre chose, je trouve qu'il a la place à marquer plus de buts sur corner.
Mais on n'en prend pas tant que ça, nous non plus. Là. C'est...
Ils vont gagner la coupe. Parce qu'ils ont éliminé 50% des buts, 50% des capacités de l'adversaire pour marquer contre eux.
Oui.
Voilà. L'attaque aérienne, l'impact les défend de façon excellente. Non, mais c'est vrai, mais les livraisons sont bonnes. Maintenant, c'est question d'exécuter entraînement, agressivité, puis gagner ton duel. C'est pas compliqué, là. C'est à l'entraînement. C'est pas au match que tu vas apprendre à mieux le faire. Tu l'appliques en match et tu aspires, mais tu as des joueurs qui étaient meilleurs. Hassoun Kamara était excellent sur corner offensif. À chaque fois, il gagnait des ballons. Regarde, par exemple, à la Coupe du Monde, Maguire de l'Angleterre. Il gagnait toutes les têtes.
Il y avait des mouvements.
Mais
des beaux mouvements collectifs aussi. Là.
C'est vrai, mais même au niveau individuel, au niveau de son positionnement, sa course, sa taille, mais aussi son explosivité, il gagnait quasiment toutes les têtes. Il touchait le ballon quasiment à chaque occasion. Que chaque occasion dans laquelle le ballon venait vers lui. Voilà, c'est une question de joueur, de préférence et d'y aller. Voilà, all in, avec la tête.
Ouais. Alors, le mot de la fin?
Le mot de la fin, merci de nous avoir écoutés. En direct sur Periscope, tous ceux qui sont là. Et n'oubliez pas de nous suivre à Cannes Foot Club pour avoir tous les liens Spreaker, SoundCloud et iTunes, Apple Podcasts, pardon, et Google Podcasts. Pour nous écouter au niveau audio. Merci pour ceux qui nous écoutent en direct. Pour nous supporter, patreon.com/CannesFootballClub. Juste un petit $5 par mois pour nous supporter. Ça nous aide à avoir du matériel, des micros, du gear. Payer des gens pour nous aider à faire des services, pour nous aider à se développer, que ce soit site web, technologie, n'importe quoi qu'on a besoin en tant que plateforme pour continuer de grandir. Si vous voulez qu'on ait une émission 99, juste tweeter le 99. Si vous voulez, là j'ai perdu Newton. Si vous voulez,
c'est incroyable, le gars.
si vous voulez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, Facebook. Facebook, c'est Cannes Football Club. Instagram, gros travail d'Alec et de Sid sur Instagram. Cannes Football Club sur Instagram aussi.
On est toujours à la recherche d'un podcast Real Madrid. Il y a presque plus de joueurs là-bas, mais pour compenser pour le podcast au Genoa là.
Au Genoa là.
Ouais, j'ai jamais été autant renseigné de ma vie sur Barcelone.
Je connais tout sur le Barça. Avec le Blaugrana, c'est incroyable. Donc voilà, le réseau podcast Cannes Football Club Plus, le meilleur réseau podcast de soccer au Québec et probablement au Canada. Je vous donne un peu de gêne. Que ce soit, félicitations à Étienne pour avoir fini ses chroniques journalières Coupe du Monde. Bravo à Étienne Boutillier. @EtienneB96. Sur la ligne avec Monsieur Foot, excellent. Le Blaugrana podcast qui est déjà à son 10e épisode, puis ils arrivent à son 11e pour parler comment Umtiti est le meilleur joueur du monde. Le Point Vendano, toujours là, toujours là pour du excellent contenu. J'ai hâte de voir le retour du
jingle.
Ah, le jingle, le meilleur. Et le merci. Meilleur. Et tous les autres podcasts qu'on a ici, que ce soit même, on attend le retour de Le Match en Main de Julien Tardif. Il est bienvenu à revenir en fait du contenu. C'était excellent ces quelques premiers épisodes. Et puis voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à Jam Industries pour fournir les microphones que Nilton et moi utilisons en ce moment. Gros merci. Merci à la Force du Malte de nous supporter en ce moment. Et notre partenaire pour l'année et probablement pour un contrat long terme. On va négocier sur ça. Non, c'est déjà négocié. On est déjà avec eux pour plus d'une année. Donc voilà. Merci tout le monde. Merci Nilton.
Quand Ben Arfa va signer, on fait une émission live?
Live, direct, de nos téléphones. Ah, c'est la plus grande outro que j'ai faite, donc j'arrête tout de suite. Merci tout le monde, bonne soirée, bon dimanche, puis on se voit sur les réseaux sociaux
bon
et sur le podcast.
T'es pas rentré travailler aujourd'hui, toi?
Bon lundi, pardon. Fatigué. Bon lundi, merci tout le monde, j'avais dit qu'on enregistre le dimanche, donc merci encore. À la prochaine, puis bonne semaine tout le monde. Ciao.
Ciao tout le monde.
MLS, Ligue des Champions, Euro, Mondial, on en parle tout le temps. Ben, des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer.